Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. En cette fin mars 2018, avec la venue du printemps, trois émissions. La semaine prochaine, le jeudi 29 et le vendredi 30 mars, deux émissions sur l'écriture. Écrire est un acte si porteur de vie. Ce soir, découverte de la région PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Certes, il faudrait bien des émissions pour cela. Mais pour vous, j'ai fait trois choix. Un auteur et au-delà un parcours de vie extraordinaire, Maurice Winnikamen, qui est avec moi en studio. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Deuxièmement, une libraire près de Toulon, à La Garde. Et vous verrez tout à l'heure comment une personne réinvente le métier de libraire. Sa librairie s'appelle l'Atoll Imaginaire. Et puis le troisième invité, c'est quelqu'un qui est en train d'implanter à Avignon un nouveau théâtre, le Train Bleu. Mais nous allons l'interroger en direct. Il est à Tours ce soir, parce qu'il fait son tour de France pour recueillir de nouvelles compagnies. Donc trois choix qui portent sur le renouveau et la renaissance. Dans notre société qui retient plus le pessimisme que la joie de vivre, trois témoignages de renaissance. Trois témoins qui donnent sens à leur vie, trois explorateurs et fondeurs pour notre temps. Et nous allons commencer, avant que je revienne à Maurice qui est en studio, avec la personne qui a fondé et qui dirige la librairie Atoll Imaginaire à La Garde près de Toulon. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser trois questions auxquelles je vais vous demander de répondre après en prenant votre temps. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette librairie, je crois qu'il y a trois ans déjà? Quelle est l'originalité de cette librairie et quels sont vos projets pour le futur?
Alors, j'ai créé la librairie, avant de créer la librairie, j'étais bibliothécaire et j'étais en région parisienne. Alors, j'ai vécu en région parisienne 27 ans et au bout de toutes ces années, j'ai eu envie de revenir à La Garde parce que j'ai grandi ici à La Garde. Et évidemment, pour rester dans le monde du livre, je devais créer cette librairie parce que j'avais déjà cette idée en tête depuis de nombreuses années. Et c'est comme ça que j'ai créé la librairie L'Atoll Imaginaire ici à La Garde en centre-ville. Voilà.
Alors, l'originalité de votre librairie?
Alors, l'originalité. Alors, tout d'abord, ce que je fais beaucoup, je sors beaucoup de la librairie. C'est-à-dire que je propose à différentes crèches des séances de lecture aux tout-petits. J'anime aussi des ateliers littérature dans les écoles depuis quelques temps aussi. Et depuis peu, on propose à la librairie aux enfants de 6 à 9 ans des ateliers philo, une fois par mois, les philo aux enfants. Et demain, justement, nous avons le prochain atelier qui est sur le thème de pourquoi nous sommes-nous là. Et ça se passe de 10h à 11h. Et voilà, c'est une animatrice qui anime ces ateliers philo. Et ça se passe très très bien. Les enfants sont ravis. Alors, ce que nous proposons aussi à la librairie, qui est un peu particulier aussi, ce sont des ateliers scientifiques aussi, parce que moi je suis une fan de science. Je ne suis pas du tout scientifique, mais je suis fan de science. Et nous animons aussi des ateliers scientifiques lorsque les bourgeois arrivent, parce que nous le faisons à l'extérieur, pour initier les enfants aux sciences de manière ludique. Et ces ateliers sont animés par un étudiant en physique. Voilà, alors par exemple, l'année dernière, ce que nous avons fait de très original, je pense, nous avons animé une soirée scientifique dans une pizzeria au centre-ville de La Garde. Et lorsque les parents mangeaient voilà, leur dîner au restaurant, nous étions à l'extérieur, sur la terrasse, et nous nous occupions des enfants en leur faisant des expériences scientifiques.
C'est formidable.
C'est vraiment très très sympa.
Tout à fait. Voilà. Alors, pourquoi l'Atoll Imaginaire?
Alors, l'Atoll Imaginaire, alors j'ai mis beaucoup de temps à trouver un nom pour ma petite librairie. Et pourquoi l'Atoll Imaginaire? Parce que nous sommes pas très loin des îles, justement, de Porquerolles. Alors, c'est pas vraiment un atoll, mais ce sont des îles. Et imaginaire, parce que lorsque nous lisons, nous aimons souvent être un petit peu solitaires et on s'imagine être sur une île imaginaire pour lire tous nos livres. Voilà pourquoi l'atoll imaginaire.
Alors, vos projets pour l'avenir?
Alors, les projets. Alors, Moi, la librairie est installée à côté d'une pâtisserie, salon de thé, qui s'appelle Les Douceurs d'Arnaud. Et comme on s'entend bien, nous avons le projet de collaborer et de créer ainsi un salon de thé-librairie. Alors, nous avons un mur qui est mitoyen, qui communique à la librairie, la pâtisserie, et nous allons ouvrir ce mur pour agrandir l'espace salon de thé. Et cela nous permettra de créer un lieu voilà, convivial, créatif, afin de permettre à tous les lecteurs de s'installer, d'échanger, s'épanouir de façon, de manière vraiment ludique. On veut vraiment créer un lieu vraiment très sympa et autour, voilà, autour d'un café, d'un thé, accompagné de petites gourmandises à pâtisserie.
Formidable. Et vous avez encore d'autres projets ?
Nous avons aussi à l'extérieur une terrasse aussi extérieure. Et l'été, durant les beaux jours, on peut s'installer à l'extérieur pour les séances de dédicaces ou les animations. Voilà pour notre projet pour cette année.
Et vous avez encore d'autres projets ?
Alors, j'en ai un autre. Pour l'instant, j'en parle très brièvement parce que nous avons aussi le projet de créer un salon du livre à la Garde. Et si tout se passe bien, ce serait pour juin 2019. Voilà. Mais là, je suis au tout début du projet. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais voilà, c'est un projet qui plaît beaucoup aussi à la municipalité et j'espère pouvoir le mettre en place pour l'année prochaine.
En tout cas, bravo. Je dois vous faire une confidence. Quand j'ai interrogé des éditeurs, d'autres libraires, des auteurs, différentes personnes, le nom de votre librairie et vous est revenu constamment. Alors c'est pourquoi je vous ai invité ce soir à parler en direct. Vous êtes une librairie qui est pleine d'imagination. Si vous lisez Henri Laborie, par exemple, vous verrez le rôle qu'il donne à l'imagination. C'est quelque chose de très fort. L'atoll imaginaire, donnez-nous l'adresse à la Garde. Éventuellement, vous avez un site?
Alors, l'adresse, c'est 160 rue Vincent Raspail, 8330 La Garde. Et alors, j'ai un blog, oui, mais que je ne tiens pas vraiment régulièrement parce que j'ai pas beaucoup le temps. Mais sinon, j'ai une page Facebook où vous pouvez vous tenir au courant de toutes les activités de la librairie et puis aussi un compte Instagram.
D'accord, l'atoll imaginaire, c'est bien ça. Merci beaucoup, vraiment, et bravo pour tout ce que vous faites. Vous annoncez le renouveau des libraires, de la librairie. Vous sortez de chez vous, vous animez, vous développez le goût de la lecture, y compris chez les enfants. N'oubliez pas les seniors. Parce que les seniors vont
reposer.
C'est très important aussi. Puis c'est un tiers de la vie. Et donc, les enfants et les seniors, vous avez les deux tiers de la vie. Alors là, vous êtes sûr d'avoir devant vous un public passionnant. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Au revoir. Alors, nous allons écouter maintenant, pour marquer une toute petite pause avant de parler avec Maurice, la valse des fleurs. Écoutez ce morceau de musique, valse des fleurs. Sortez votre 12e livre, c'est bien ça, Daesh contre les fossoyeurs du château, et vous en avez un 13e qui est en cours. Quel parcours ? D'abord, parlons un peu de votre parcours, parce qu'on a les deux parties pour parler ensemble. Un parcours incroyable. Je ne dirai pas votre âge, parce que les gens ne le croiraient pas, mais un parcours dans lequel vous avez vécu et dès votre enfance et ensuite plein d'activités, et vous êtes toujours resté accroché à la vie, quel que soit ce que vous ayez rencontré comme difficulté, et Dieu qu'il y en a eu.
Mon âge, c'est moi qui vais vous le donner. Je suis né l'année où Hitler a pris le pouvoir. Donc, voilà, ça vous marque un individu. Et à partir de là, oui, j'écris. En fait, toujours autour de ça. Toujours autour de mon enfance. Une enfance d'enfant juif caché. Caché par... caché par besoin, parce que sinon j'aurais terminé dans une chambre à gaz, et caché chez des gens extraordinaires, je dirais à moitié maréchalistes et totalement chrétiens. Donc voilà, l'un disait « livre-le », l'autre là-haut leur disait « sauve-le », qui sauve un homme, sauve l'humanité. Ils ont choisi la deuxième solution. Bon Dieu, qu'est-ce que je suis content.
Et ensuite, vous avez eu plein d'activités dans plein d'associations. Vous êtes engagé, vous êtes resté toujours engagé.
Oui, tout à fait. Bon, disons que j'ai commencé par m'engager dans le domaine de l'antiracisme. Et puis, c'est curieux la vie. J'étais bien avant tout le monde partisan du non-cumul des mandats. Donc à partir du moment où je m'engageais ailleurs, c'était un peu concomitant, mais pas tout à fait pareil. Il fallait que j'abandonne quelque chose. Et c'était une époque où, sous la direction de mon cher ami Papon, on voyait les Nord-Africains venus redresser la France, flotter dans le courant de la Seine. Et donc, j'étais au MRAP et j'ai dit au MRAP, ma place n'est plus ici, compte tenu de ce qui s'est passé avec l'hitlérisme, l'antisémitisme est éradiqué. J'avais le droit de me tromper. Mais enfin, bon, voilà, ça partait d'un sentiment. Par contre, je disais, il faut que ce soit maintenant les amis maghrébins qui dirigent cette association, parce que c'est eux qui aujourd'hui souffrent de racisme. Ça a mal tourné. Bon. Et voilà, c'est la suite de mon engagement. J'ai expliqué pourquoi j'étais pas d'accord avec Mouloud Aounit lorsque il confondait communauté et communautarisme. J'ai expliqué, ça n'a pas plu. Et je veux dire que ça a été avec des menaces physiques. Mais ça fait rien, j'ai continué. Et puis politiquement, j'étais engagé aussi. J'ai fait partie des jeunesses communistes. Moi, le vieux bonhomme que je suis aujourd'hui, j'ai du mal à regarder. Mais voilà. Et puis un jour, j'ai quand même... j'ai eu des tâches importantes, mais des tâches dont on ne parle pas. Parce que j'étais de ceux qui créaient ou dirigeaient des associations ou des sociétés qui, selon Georges Marchais, n'existaient pas. Donc, voilà. Et puis j'ai posé un certain nombre de questions. Et un jour, on m'a dit, écoute, t'as tellement de boulot qu'on va t'apporter la carte avec les timbres tout mis pour l'année. C'est pas la peine que tu te déranges. Et moi, connement, j'ai dit bon, d'accord, une fois. La deuxième fois, j'ai dit non. Je vais à la reprise des cartes comme tout le monde. Vous me convoquerez ce jour-là. Ça fait depuis les années 70 que j'attends la convocation. Mais c'est pas grave non plus. Voilà. Après, je me suis retrouvé au Parti Socialiste. Pourquoi ? Pas parce que le Parti Socialiste me plaisait particulièrement, mais parce que Le Pen était arrivé au premier ou au deuxième tour. Donc, il fallait faire quelque chose. Et puis un jour, toujours dans le cadre des non-cumuls de mandats, je me suis aperçu que nous avions un secrétaire général qui avait, je sais pas, 6 ou 7 casquettes. Et j'ai dit non, ça va pas ça. Voilà, et on m'a viré. Très, très simplement. Je me suis pas accroché aux branches. Hein. Et aujourd'hui, je suis hors des partis. Toujours dans les mouvements associatifs. Toujours avec la cible de l'antiracisme. Et voilà pourquoi, en fait, J'avais, quand j'étais gamin, un livre de chevet. Un livre de chevet dont tu connais l'auteur, qui s'appelle Ostrovski. Et l'acier fut trempé. Ce type écrivait comment, avec un bras en moins, puis après avec une jambe en moins, puis après sans les deux jambes, puis après ceci, puis après cela, devenant presque aveugle, il pouvait plus courir, alors il a écrit. Mais il a continué à militer. C'est mon modèle.
Alors, dans la deuxième partie, Maurice, on parlera de ce livre Daesh contre les fossoyeurs du château. De quoi s'agit-il et pourquoi ce livre? Et puis, on parlera peut-être de ce que vous m'avez dit tout à l'heure avant l'émission, du prochain livre qui, selon vous, sera peut-être le dernier et qui a une toute autre perspective. Mais comme il nous reste encore une ou deux minutes, si vous aviez une devise, laquelle est-elle? Et si vous n'en avez pas, laquelle vous voudriez prendre?
Si j'avais quoi?
Une devise.
Une devise? Ben, je crois que rien n'est jamais perdu. Faut toujours remettre l'ouvrage sur le tapis, et pas dessous, hein, dessus, le tapis, et continuer à se battre.
Autrement dit, être en vie, vivre, c'est combattre.
Ah oui, oui, que ce soit par l'écriture ou autrement, se battre, c'est rester vivant. Et moi, je tiens à la vie, hein.
Se battre, c'est rester vivant. Nous allons écouter, pour finir cette première partie de l'émission, Le printemps de Vivaldi, parce que je crois que c'est très beau. Chers auditeurs, il n'y a pas d'âge pour le printemps. Maurice vient vous dire... Se battre, c'est vivre, et vivre, c'est se battre. Poursuivons, chers auditeurs, cette émission. Nous avons vu dans la première partie cette personne qui dirige la librairie, l'atoll imaginaire à côté de la garde, près de Toulon. C'est un renouveau en librairie absolument extraordinaire, comme il y en a peu encore aujourd'hui. Nous allons continuer d'échanger avec, j'allais dire, Maurice. Et puis, dans un instant, en direct, nous aurons Aurélien Rondeau, qui va ouvrir le Train Bleu à Avignon, un nouvel espace de théâtre dont il va nous parler, parce que j'ai pensé que autour du théâtre, il y avait aussi du printemps, il y avait du renouveau, il y avait de la renaissance. Donc, nous allons écouter Aurélien. Et Aurélien navigue entre Paris, entre Avignon et d'autres villes. Ce soir, il est à Tours, donc nous allons l'avoir en direct dans un instant, pour échanger avec lui sur ce projet. Je reviens brièvement vers vous, Maurice. Donc, le dernier livre sorti, c'est Daesh contre les... Alors, on me dit qu'on a Aurélien en ligne. Maurice, on va attendre. Aurélien, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes à Tours, je crois, ce soir.
Alors oui, en fait, je suis sur la route. Je ne suis pas encore à Tours, mais je me suis arrêté pour pouvoir vous parler, Michel.
Merci beaucoup, Aurélien. Alors, vous allez nous parler à la fois de ce que vous êtes en train de faire à Avignon, de créer, de produire le Train Bleu. Vous allez nous dire de quoi il s'agit, de quelle singularité, vos activités, puis surtout nous donner un site, une adresse pour qu'on puisse prendre contact, puisque c'est quand même un nouveau lieu dans la région sur laquelle, moi, personnellement, j'irai à la première occasion. On vous écoute, Aurélien.
Bah écoutez, merci Michel pour votre enthousiasme. Mais oui, le Train Bleu va être donc dès cet été, dès le Festival d'Avignon 2018, un nouveau lieu à Avignon qui est dédié à la jeune création contemporaine. Donc on aura évidemment beaucoup de créations, il y aura beaucoup de spectacles qui joueront à Avignon pour la première fois. Il y aura beaucoup de jeunes auteurs, d'auteurs vivants, de jeunes metteurs en scène. On fera la part belle à la création. Dans le théâtre, ben voilà, ce sera un lieu qui sera tout neuf, entièrement équipé, en plein centre d'Avignon. C'est vraiment un lieu qu'on souhaite dédier au bon fonctionnement des compagnies. Voilà, on souhaite leur offrir un moyen, non seulement pendant le festival, de présenter leur spectacle dans de très bonnes conditions, de ne pas présenter simplement des ersatz de spectacles, des succès d'année. Voilà, ce seront vraiment des spectacles qui pourront se déployer dans toute leur ampleur. Et puis, pendant l'année, ce projet se déclinera auprès des compagnies pour leur offrir des résidences de création. Voilà, parce que ce théâtre est un beau théâtre, il est équipé et on ne compte pas le fermer le 2 août à la fin du festival pour ne le rouvrir qu'au 1er juin, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc on ouvrira les portes au théâtre ou aux compagnies qui seront désireuses de l'investir pour créer leur spectacle, imaginer de nouveaux projets. Voilà.
C'est formidable. Le Train Bleu, pourquoi ?
Le Train Bleu, parce que le théâtre se situe dans la rue Paul Sahin à Avignon. Et Paul Sahin étant le peintre qui a représenté la ville d'Avignon à Paris sur les plafonds de la brasserie Le Train Bleu à la gare de Lyon. Alors pour nous, ce nom représentait non seulement un ancrage local dans la ville d'Avignon, c'est-à-dire qu'on prend en compte le lieu dans lequel se trouve le théâtre, et puis il représente aussi nos origines parisiennes, parce que sur les quatre associés du théâtre du Train Bleu, il y a trois Parisiens, et on s'est tous les quatre, de toute façon, rencontrés à Paris. Donc voilà, il y a cette idée de voyage et de lien entre ces deux villes, entre lesquelles on se partage.
Aurélien, vous allez commencer avec le Festival d'Avignon, je pense.
Absolument, on va inaugurer le nouveau théâtre, le théâtre du Train Bleu, à l'occasion de la première de chaque spectacle qui aura lieu le 6 juillet prochain.
Et ensuite, toute l'année, il sera ouvert à des dates qui seront en fonction de ce que les compagnies vont proposer, etc.
Exactement, ce sera en fonction des désirs et des envies, des projets des compagnies. On peut très bien envisager, par exemple, qu'une compagnie vienne répéter pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, et puis qu'elle ressente le besoin d'avoir des premiers retours, de présenter son spectacle à du public. Alors à ce moment-là, on fera le nécessaire pour qu'il y ait du public dans la salle lors d'une sortie de résidence. Mais on peut aussi très bien envisager, parce qu'encore une fois, nous, on se met au service des compagnies et de leurs projets, on peut très bien envisager qu'il ne se passe que pour le public avignonnais, en tout cas, il ne se passe pas grand-chose, simplement il y aura eu un passage d'une compagnie, elle aura travaillé dans ce lieu. À terme, évidemment, on aimerait coupler ces résidences avec ce qui s'appelle de l'action culturelle, c'est-à-dire ouvrir aussi une démarche d'éducation. Pourquoi ne pas envisager des choses auprès des écoles, des collèges ou des lycées, avec les équipes artistiques qui seront présentes au Théâtre du Train Bleu tout au long de l'année.
Aurélien, comment prendre contact avec le Train Bleu ? Vous avez un mail, vous avez un site, vous avez un téléphone ? Qu'on peut faire ?
Voilà, le plus simple, c'est évidemment d'aller sur le site internet du théâtre, qui est le www.théâtredutrainbleu.fr. Et puis, sur ce site, vous trouverez toutes les informations nécessaires, et entre autres, évidemment, le mail pour nous contacter, qui est tout simplement contact@théâtredutrainbleu.fr.
www.théâtredutrainbleu.fr, c'est bien ça?
Exactement.
Aurélien, est-ce qu'on peut imaginer un jour que le train bleu, par exemple, poursuive sa route et vienne jusqu'à Cannes, jusqu'à Antibes, enfin là où le train peut s'arrêter?
Écoutez, absolument, pourquoi s'empêcher de rêver? Le train bleu est fait pour ça, il est déjà né d'un rêve, il est déjà la concrétisation d'un rêve. Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas? Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir ce qui se passe à Antibes, à Cannes, ailleurs, bien sûr?
Absolument, et je veux prendre le monopole du Sud-Est, on va ouvrir sur le Sud-Ouest, pourquoi pas Montpellier, Béziers et toutes ces villes de ce côté-là?
Mais de toute façon, je crois qu'il faut commencer toutes les phrases qui concernent ce sujet-là. Pourquoi pas? Vraiment, on est borné, on n'est absolument pas borné, on est ouvert à toutes les envies, tous les projets qui peuvent émerger. On prête une oreille très attentive et voilà. S'il faut s'engager, on s'engagera.
Aurélien, merci. Le Train Bleu, nouvelle création absolument extraordinaire à Avignon. Rendez-vous au festival de cette année, 2019, et ensuite toute l'année. Le site www.théâtredutrainbleu.fr, et vous allez avoir toutes les informations. Aurélien, merci beaucoup de s'être arrêté sur le bord de la route, d'avoir pris la précaution de prendre votre téléphone en étant sur le bord de la route et non pas en conduisant. Bravo. Et le train bleu, on ira vous voir.
Merci beaucoup, Michel.
Merci, Aurélien. Merci. Au revoir. Alors, je reviens vers vous, Maurice, pour la fin de cette émission. Et alors, Daesh contre les fossoyeurs du château, c'est un livre qui a été commencé avant les événements de Nice. Hein, c'est bien ça.
J'ai commencé à l'écrire en 2014.
2014.
Donc, on était loin d'imaginer les événements du 14 juillet 2016. J'avais déjà... pas tout seul, mais nous étions un certain nombre à avoir déjà l'impression que sur le terrain... Daesh était foutu, mais que c'était une victoire à la Pyrrhus, qu'ils allaient réorienter leur combat et faire un maximum de dégâts à l'intérieur de nos pays. C'est de cela que je parle. Je parle d'une cellule morte, enfin en sommeil, de Daesh, pas morte, et du combat nécessaire. Pour rejoindre ce que je disais à la fin de la première partie, lutter c'est combattre, combattre c'est vivre, etc. Je rappelle la métaphore de la Bible. Je ne suis pas croyant moi, hein, mais la Bible, il n'y a pas que des conneries dedans. Donc, la métaphore. Le diable me fait peur. Je veux fuir le diable. Je passe sur le trottoir d'en face. Mais il est rapide, le diable. Il est avant moi sur le trottoir d'en face. Alors comme il est là, je veux revenir sur le bon trottoir. Eh bien, il est encore là. Et ça peut durer plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour, je lui dise « Je t'ai reconnu. Tu es le démon. » Eh bien, je te combattrai. Et c'est pas, j'ai pas envie de te faire plaisir, donc je vais pas te nommer. Mais c'est tes victimes que je vais nommer. Si on avait cette attitude, il foutrait le camp. Voilà ce que je pense. C'est le sens même de ce livre.
Autrement dit, Maurice, vous êtes en train de nous dire, n'ayons pas peur, y compris du diable.
Quand je vois dans les salons du livre des gens que le titre fait fuir, il y a marqué Daesh, alors on veut passer sur le trottoir d'en face. Et bien sur le trottoir d'en face, ils vont rencontrer le démon aussi. Donc voilà. Ce livre finalement, je l'ai bâti avec le maximum d'humour dont j'étais capable. Et on sait parfaitement qu'avec la descendance, l'ascendance qui est la mienne, je veux dire, les russo-polonais, de la synagogue ou pas, sont doués d'un humour pas possible.
Oui, Maurice insistait là-dessus, parce que je trouve extraordinaire cet humour juif avec cette origine singulière que vous venez de dire, c'est absolument fabuleux. À chaque fois que j'entre dans cet humour, je suis ému parfois jusqu'aux larmes, tellement c'est surprenant, c'est déconcertant, c'est magnifique. Vous l'avez écrit avec cet humour.
Mon grand-père, qui était un militant, c'est pour ça qu'il était en France condamné à mort par les tribunaux tsaristes, avait un accent à couper au couteau. Et il commençait toujours ses discours. C'était le même, d'ailleurs. L'entrée était la même. Mesdames, messieurs, le but de la société, c'est le but humanitaire. Et le but humanitaire, c'est le but à tout le monde. Voilà. Bon, rien que ça...
C'est déjà de l'humour.
C'est déjà de l'humour. Et à Nice non plus, on ne manque pas d'humour. Quand vous savez que on a au cimetière de Caussade un médecin russo-niçois d'ailleurs, qui greffait des testicules de singe aux hommes d'un certain âge pour leur redonner de la vigueur.
Est-ce que ça marchait?
Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il côtoie la tombe de Monsieur Mantelet. Vous savez qui c'est, Monsieur Mantelet?
Non.
C'est l'inventeur de la presse à légumes.
Ah,
il n'y a pas de relation jurée hein, entre les deux.
Non, mais vous en faites une quand même.
Voilà. Non, c'est histoire de dire. Alors, quand même, pour entrer un peu dans le sérieux, les individus qui sont dans ce livre, je les ai tous connus. Il n'y en a qu'un que j'ai inventé, que j'ai appelé le rémouleur, parce qu'à Daesh, on égorge facilement. Donc, j'ai imaginé un type qui serait rémouleur pour les couteaux du Daesh. Et notamment, j'ai connu un garçon très doué, qui était toujours brillant en classe, mais qu'on appelait le fils d'immigré. Parce que sa mère était arrivée avec les lois de Giscard sur le rapprochement familial. Il arrivait à faire ses devoirs et ceux des cancres. Et c'est lui qui avait la mauvaise note parce qu'il avait copié. Bon, mais c'est intéressant aussi ça. Et ce garçon est devenu carabin, donc étudiant en médecine. Et un jour, le dealer du coin l'a appelé. « Viens, j'ai un problème dans ma cave. » Il est arrivé. Il y avait une jeune fille morte dans une tournante et par overdose. Et il a dû arrêter ses études de médecine, qu'il a repris à un âge plus avancé, mais il a dû arrêter parce que les dealers et leur chef aiment bien les témoins, et surtout les témoins intelligents. Quand ils sont morts, pas autrement. Donc voilà, c'est pour situer. Et c'est lui qui va mener la bataille contre Daesh local à Nice.
Parce que Daesh contre les fossoyeurs du château, au pays rêvé, édition Obadia à Nice, un très très beau livre. Vous ne serez pas du tout surpris, vous serez touché par ce livre qui est magnifique. Vous en écrivez un autre. Et vous m'avez dit tout à l'heure, ce sera peut-être le dernier, centenaire et soignant. Quelle idée de finir l'écriture dans votre vie, c'est le 12e ouvrage, ça serait donc le 13e, par le thème des seniors et des soignants. Qu'est-ce qui se passe, Maurice?
Eh bien, j'ai interviewé une dizaine de résidents dans un EHPAD, niçois. Et ça a été publié, ça leur a fait plaisir, famille, tout, bon. Et j'ai commencé une autre fournée de 10. Mais en écrivant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une mortalité plus importante parmi mes 10, en pourcentage, hein, j'entends, que dans l'ensemble de l'EHPAD. Donc j'ai voulu arrêter. Les soignants m'ont dit non, il faut continuer. Alors, il faut continuer. Pourquoi ? Ça vous aide ? Si ça vous aide à les mettre dans le trou, c'est pas mon problème, je suis pas le fossoyeur. Non, ça nous aide parce que ils vous racontent à vous des choses qu'ils n'ont jamais dites, même à leurs enfants. Et j'ai vérifié, effectivement, c'est arrivé. C'est arrivé qu'un de mes amis me dise « On a perdu mon beau-père, ma femme est dans tous ses états, elle ne sait pas comment a vécu son père pendant la guerre. » Alors je demandais comment il s'appelait, etc. On m'a dit « C'est le docteur Gross. » J'ai demandé « C'est lui de Montpellier ?»« Oui, pas de problème. » »« Ok, j'ai un dossier. » Et la dame a pu avoir un dossier sur son père. Donc effectivement, c'est important. Mais en même temps, je veux dire, je ne veux pas me contenter de ça. Alors j'ai mis une condition à écrire le deuxième bouquin. La condition, c'était d'en faire un troisième sur les soignants. Ça a été accordé. Et les interviews étant faites, une trentaine d'interviews sur les soignants, le directeur de l'EHPAD me dit, écoute, ce que tu sais pas, c'est qu'on a eu 27 centenaires dans cet établissement. Vous voyez comment tout s'éclaire ? On ne naît pas centenaire, on le devient. Pour devenir centenaire, bien sûr, il faut avoir les capacités physiques, soi-même être armé, mais il faut quand même une dose d'empathie, il faut que les soins soient présents, et ça, depuis la coiffeuse jusqu'au pédicure, en passant par les médecins, les aides-soignantes, tout le monde. Donc voilà.
Maurice, nous allons terminer cette émission en écoutant une musique médiévale qui est une autre manière d'entrer dans le printemps, le renouveau, Daesh contre les fossoyeurs du château. Je rappelle que Maurice a fait don de tous ses droits d'auteur à l'association qui a été créée à partir des événements de Nice, c'est bien ça, et que Centenaire et soignant est un livre qui sortira cette année, l'an prochain.
Je donne pas de date.
Qui est en cours. Et qui vous nous rappelez qu'on ne devient pas centenaire n'importe comment, on ne naît pas centenaire, on le devient. Et pour cela, il faut être entouré d'un esprit soignant. Et terminons, si vous voulez, cette émission par un hommage à tous les soignants, tous, je dis bien tous, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Merci, bonsoir.
Bonsoir.